Je vais vous parler de la notion d'immortalité et de transcendance dans l'univers romanesque de Philip K. Dick, particulièrement à travers deux romans qui sont Do Androids Dream of Electric Sheep, qui est le roman qui a inspiré le film Blade Runner, et A Scanner Darkly. Donc, Philip K. Dick, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, était un écrivain de science-fiction américain qui est né en 1928 et décédé en 1982. C'est l'auteur de 40 romans et plus d'une centaine de nouvelles, il me semble. Son style est loin de faire l'unanimité auprès des critiques, mais les thèmes abordés par ses récits continuent de fasciner les lecteurs d'aujourd'hui. Il y a énormément de films qui ont été tirés de ses livres, qui réactualisent constamment toute la symbolique de son œuvre. Certains de ses thèmes, comme la dégénérescence du corps, la maladie mentale, la prise de drogue et la bioéthique, sont l'objet de notre communication d'aujourd'hui. Dans le cadre de ce colloque, plutôt que de vous présenter des figures directement immortelles, je vous propose d'explorer la question de la quête de transcendance des personnages de Philip K. Dick que j'associe à cette idée d'immortalité. Donc, ma communication va aborder principalement Do Androids Dream of Electric Sheep et A Scanner Darkly, mais je vais aussi faire référence à quelques autres œuvres de ce géant de la science-fiction américaine. Avant d'analyser la question de l'immortalité chez Philip K. Dick, une petite incursion dans la biographie de l'auteur Ed Meese. C'est un auteur américain de science-fiction, né en 1928, qui a passé une majorité de sa vie en Californie. Dick incarne parfaitement l'archétype de l'écrivain torturé. En effet, nous ne saurons jamais vraiment si les problèmes psychiatriques précédaient la prise de drogue chez cet écrivain ou si ce sont plutôt celles-ci qui ont provoqué les nombreuses névroses et psychoses dont l'écrivain a souffert au fil de sa vie. Le fait est que Philip K. Dick avait de graves troubles anxieux au point où il a abandonné ses études à l'université Berkeley parce qu'il était incapable de sortir chez lui et d'aller assister à ses cours et qu'il était aussi éminemment paranoïaque, convaincu d'être sous écoute, traqué par la police et la cible de multiples complots, surtout de la part de Richard Nixon, qu'il détestait tout particulièrement. La réalité pour Philip K. Dick était trouble, multiple et insaisissable. Les personnages de Dick sont, comme leur créateur, hantés par cette idée que la réalité pourrait être trompeuse. Cet état les pousse à vouloir trouver des moyens d'aller au-delà de la réalité, donc d'atteindre une certaine transcendance, convaincu qu'il existerait une autre vérité, une vérité de l'essence et de l'âme qui serait au-delà des choses matérielles et du monde dans lequel on vit, qui, de toute manière, pourrait être trouble. Les personnages s'embarquent dans une quête de transcendance qui passe par plusieurs aspects, dont la religion, la robotique et la prise de drogue. À nos yeux, c'est autour de cette quête que se noue la notion d'immortalité chez les personnages de Dick, même si on ne parle pas d'immortalité vraiment en tant que telle du corps, c'est ça, on parle de l'immortalité de l'esprit. Les personnages essaient donc d'échapper à leur réalité et de trouver des moyens d'exister hors de leur corps, dans l'essence, dans l'âme et même dans l'éternité. Ce que l'on tente de transcender, c'est d'abord la dégénérescence du corps. Le corps, après tout, est imparfait. Il est défaillant et mortel. De ce fait, dans le roman « Do Androids Dream of Electric Sheep », l'immortalité ou amortalité est précieuse. Ce roman nous propose un univers post-apocalyptique où tous les gens sains ont quitté la Terre vers d'autres colonies qui se trouvent sur d'autres planètes, et où la plupart des animaux sont morts. Il ne reste sur Terre que des sous-hommes, entre gros guillemets, qui auraient échoué les tests nécessaires pour quitter la Terre. C'est à la fois des tests physiques, intellectuels et psychiatriques, et quelques animaux, mais qui sont très rares. Dans un tel contexte, la vie devient extrêmement précieuse et posséder un animal est un gage de richesse, puisque la grande majorité des animaux sont morts. Des retombées radioactives de la Troisième Guerre mondiale qui précède, en fait, qui est comme la genèse du roman. Le prix des animaux est exorbitant, d'où le prestige associé au fait d'en posséder un. Et puisque les terriens sont majoritairement pauvres et n'ont pas les moyens de se procurer des vrais animaux, ça occasionne la création d'un simulacre et une incursion dans la sphère de la robotique. Donc, en plus des vrais animaux, il existe dans l'univers du roman des animaux électriques, des electric sheep, qui sont des répliques quasi parfaites dont personne ne pourrait douter de leur véritable identité et qui se vendent à une fraction du prix des vrais animaux. Donc, puisque les personnages sont beaucoup dans le paraître, et puisque c'est très prestigieux de posséder des animaux parce qu'ils sont très rares et très précieux et qui coûtent très cher, ben les gens qui sont pauvres ont des animaux électriques, personne ne s'en doutera jamais. Il y a beaucoup de prestige associé à ça. Ça demeure toutefois un simulacre parce que le système a une faille, la robotique dans ce roman-là n'est pas parfaite et les animaux électriques connaissent toutes sortes de défaillances eux aussi. Donc, il y a dans le roman des réparateurs d'animaux électriques qui se font passer pour des vétérinaires qui viennent à la maison chercher les animaux électriques et les réparer, en fait, les ramener à la clinique vétérinaire, tout en gros guillemets, pour que personne ne se doute jamais qu'en fait, il ne s'agit pas de vrais animaux. Ainsi, la transformation robotique ne serait pas la réponse à la dégénérescence du corps, parce que même les robots connaissent une dégénérescence. Cette défaillance de la robotique est aussi mentionnée dans le film The Blade Runner, qui est l'adaptation du roman. Dans cette adaptation, les robots sont frappés du sceau d'une étrange obsolescence programmée et condamnés à mourir au bout de quelques années. Le titre d'une communication, donc « I want more life », est une réplique de Blade Runner lorsque Roy Batty, un androïde, va confronter son créateur, le Dr. Terrell, et lui demande de lui donner plus de vie. Malheureusement pour Roy, le Dr. Terrell lui explique que toutes les avancées technologiques n'ont pas réussi à régler le problème de la mortalité et qu'ainsi même les androïdes sont condamnés à mourir. Ainsi, bien que les personnages du roman puissent se tourner vers la robotique comme moyen de transcender leur réalité, cette première avenue semble vouée à l'échec parce que les robots aussi ont une espérance de vie limitée. Il existe, dans Do Androids Dream of Electric Sheep, un autre moyen d'altérer la réalité physique et ainsi de transcender son corps. Ça s'appelle le Penfield Mood Organ. C'est un engin qui contrôle et règle l'humeur et que les personnages utilisent pour se remonter le moral principalement. Ce qui est en fait l'objectif principal de cette machine. C'est comme un gros antidépresseur qui joue avec les réactions chimiques dans le cerveau. Pourtant, certains personnages, comme Iron Deckard, qui est la femme de Rick Deckard, le protagoniste du roman, utilisent au contraire le Penfield Mood Organ afin de prendre meilleure conscience de la vacuité de leur existence et ainsi échapper à leur mode de vie qui est basé sur le déni. Donc ici, je cite le roman. « My schedule for today lists a 6-hour self-accusatory depression. I was sitting here one afternoon, and naturally I had turned on the TV, and for a minute I shut off the sound. And I heard the building, this building. I heard the empty apartment. At that moment, I heard the emptiness intellectually, but I didn't feel it. But then I realized how unhealthy it was, sensing the absence of life, not just in this building, but everywhere, and not reacting. So I put despair on my schedule for twice a month. I think that's a reasonable amount of time to feel hopeless about everything and about staying here on Earth after everybody who's smart has emigrated. » Donc, Iron Deckard utilise plutôt le Penfield Mood Organ au lieu de se remonter le moral pour éviter l'anesthésie dans laquelle les personnages vivent et pour mieux ressentir ce qui lui arrive et ainsi échapper à cette dualité de l'existence qui se présente comme lisse et sans aspérité mais qui cache en fait un vide monstrueux. Dans son utilisation du Penfield Mood Organ, Iron est en quête d'elle-même, une quête d'authenticité de ses émotions et de ses impressions, en quête de moyens de rejoindre son humanité au-delà de son corps. Le seul problème, c'est que si le Penfield Mood Organ permet d'altérer sa réalité pour rejoindre une vérité autre, elle ne permet pas au corps de disparaître complètement et n'est pas un changement d'état permanent. Elle ne permet donc pas à l'esprit de transcender pleinement. La religion pourrait être le pas supplémentaire à prendre dans cette direction. Dans ce roman, deux entités spirituelles se disputent la fidélité des habitants de la Terre, en fait de ceux qui sont restés sur Terre. Il s'agit de Buster Friendly et Wilbur Mercer. C'est ça, je l'ai bien dit, je m'en fâche tout le temps dans ce mot-là. Bon. Le premier, Buster Friendly, est un animateur de radio et de télévision dont les émissions sont diffusées 24 heures sur 24, tant à la télévision qu'à la radio. Et c'est deux émissions différentes qui jouent en continu. Donc, c'est vraiment, il y a vraiment un paradoxe là-dedans. Il anime en direct son émission de télévision et enregistre simultanément une émission de radio différente. Donc, il est vraiment omniprésent. Et son ubiquité n'est jamais remise en question parce que Buster Friendly, c'est une figure positive qui véhicule des émotions positives et donc qui permet aux gens de changer les idées et justement d'oublier à quel point la vie sur Terre est rendue désastreuse. C'est un amuseur public, un véritable clown qui divertit les gens pour leur faire oublier la vacuité de leur existence, leur absence de prospects et la misère dans laquelle ils vivent. Donc, parallèlement à cette figure, nous retrouvons celle de Wilbur Mercer. Mercer est une figure archétypale de martyr, condamné à grimper une montagne à répétition et à se faire lapider dans le processus, dans une réactualisation du mythe de Sisyphe. Tous les personnages du roman possèdent chez eux ce qu'on appelle une empathy box, donc une boîte d'empathie. Lorsqu'on agrippe les poignées de la boîte, on se retrouve avec Mercer sur sa montagne, on grimpe avec lui, on se blesse si une roche nous frappe, on communie avec lui et tous les autres qui agrippent en même temps leur empathy box, et on souffre avec Mercer. Donc, on partage une grosse expérience spirituelle et émotive. Le Mercerism est donc une tentative de transcendance au-delà du corps et de la conscience qui est pratiquée par les personnages et qui est orchestrée autour de cette question de l'empathie. L'empathie qui est dans le roman, la caractéristique principale qui permettrait de discerner les humains des robots. C'est par l'empathie qu'on juge, en fait, que Rick Deckard, qui est un chasseur de robots, juge si la personne à qui il a affaire, parce qu'il s'agit d'androïdes, donc les robots ont une apparence humaine, si l'androïde est un androïde ou non. Alors, c'est à partir de cette question d'empathie que les personnages essaient de retrouver leur humanité. Il existe une rivalité entre Buster Friendly et Wilbur Mercer, donc un étant une figure qui œuvre plus dans l'amusement artificiel et l'autre dans l'expérience. Et dans la nouvelle de Little Black Box, qui est la première nouvelle dans laquelle la Empathy Box fait son apparition, la protagoniste perçoit en fait le Mercerism, comme est appelée la religion du roman, comme une forme élevée de spiritualité comparativement à toutes les autres qui seraient des échappatoires vides. Je cite la nouvelle. Mercerism is a genuine form of experience in contrast to the escapist kinds that have saturated society. Donc, l'autre forme d'échapper, d'escapism du roman, ce serait Buster Friendly et un amusement inoffensif qui change les idées sans vraiment élever l'esprit. Mais peu importe qu'on ait affaire à de l'échapper ou à une véritable transcendance, l'ubiquité de Buster Friendly et Wilbur Mercer est à double tranchant. En effet, s'ils offrent aux personnages une opportunité d'échapper en tout temps au vide de leur existence, ils peuvent aussi être perçus comme des instruments de contrôle de la société à travers les médias. Buster et Mercer envahissent chaque jour les foyers de tout un chacun, dans une intrusion à laquelle il est impossible d'échapper, détruisant toute notion de vie privée. À travers ces deux entités, il n'y a plus de privé, il n'y a plus de public, tout le monde communie constamment. En ce sens, l'individualité aussi dans le roman est un simulacre. Puisque le même message traverse tous les foyers, tous les personnages sont assujettis aux mêmes idées médiatiques. L'individu s'éclipse au profit de la communauté et devient en ce sens plus facile à contrôler. Ici, je cite Jill Galvin dans son article « Entering the Post-Human Collective in Philip K. Dick's Do Androids Dream of Electric Sheep? » Technology often acts in Dick's novel as the long arm of the government, furtively breaching the bounds between public and private. Et cette réalité est même décriée dans le roman. Ironiquement, c'est Buster Friendly qui livre à ses auditeurs le message suivant. « Ask yourselves what it is that Mercerism does. » If we're to believe its many practitioners, the experience fuses men and women together into a single entity. But it is an entity which is manageable by the so-called telepathic voice of Mercer, like an ambitious, politically minded would-be Hitler. Donc les personnages de Do Androids Dream of Electric Sheep ne pourraient donc jamais arriver à transcender réellement leur réalité à travers les émissions de Buster Friendly ou la Empathy Box de Wilbur Mercer. Il ne s'agirait là que d'autres moyens pour le gouvernement de contrôler la population et le contenu auquel elle a accès. Et toute tentative d'accéder à son humanité ou son individualité à travers ses différents moyens ne serait que simulacre. Donc, pas de réelle transcendance à travers le culte religieux, mais seulement un instrument de contrôle. La désillusion déjà amorcée ici devient complète à partir du moment où l'artificialité de ces deux figures est exposée. À la fin du roman, Buster Friendly expose le caractère frauduleux du Mercerism. Dans une émission spéciale qu'il convie tous ses auditeurs à ne pas manquer, Buster explique que, je cite le roman, blow-ups of the video pictures reveal that the gray backdrop of the sky and daytime moon against which Mercer moves is not only nocturne, it is artificial. It is quite possible, in fact, that the stones, avec les guillemets dans le texte, that are thrown at Mercer are made of soft plastic, causing no authentic wounds. In other words, Wilbur Mercer is not suffering at all. Et ainsi, tous ceux qui utiliseraient la Empathy Box pour partager la souffrance de Mercer seraient victimes d'un artifice. Pourtant, s'il s'agirait là d'une fraude, le culte de Buster Friendly est aussi orchestré autour d'un mensonge. Dans le roman, il y a un personnage qui se pose la question « How does Buster Friendly find the time to tape both his odd and vid show? » Mais puisque le personnage n'est pas assez intelligent pour comprendre l'évidence supercherie derrière la figure de Buster Friendly, le lecteur devra attendre la fin du roman avant de se voir confirmer qu'en fait, Buster Friendly est un androïde. Donc, en fait, un androïde qui se fait passer pour un humain. Donc, le culte de Buster Friendly, tout comme celui de Wilbur Mercer, est basé sur un mensonge. Le statut d'androïde de Buster Friendly est ce qui existe, son omniprésence et sa performativité, et cela ne fait que renforcer l'impression que la religion, dans les romans de Philip K. Dick, n'est que simulacre et ne fournit jamais les réponses que les personnages cherchent. Pourtant, si les personnages de Do Androids Dream of Electric Sheep semblent avoir échoué dans leur tentative de communion avec Dieu, le roman A Scanner Darkly nous propose des personnages qui connaissent Dieu, véritablement, mais à travers la prise de drogue. Celle-ci permet aux personnages de connaître de minces instants d'extase, aussi vite perdus, et qu'ils recherchent par la suite incessamment. Je cite le roman. Donna Hawthorne thought then of a guy she had known once, who had seen God. Et là, le personnage parle. After he saw God, he felt really good for around a year, and then he felt really bad, worse than he'd ever felt before in his life. Because one day it came over him, and he began to realize that he was never going to see God again. He was going to have to live out his all remaining life, decades, maybe 50 years, and see nothing but what he'd always seen, what we see. He was worse off than if he hadn't seen God. He realized he was going to have to live on and on like he was, seeing nothing, without any purpose. Like the rest of us, that's what I told him. We were all in the same boat, and it didn't freak the rest of us out. And he said, you say that because you don't know what I saw. You don't know. Ainsi, si le mercerisme était une fraude et le Penfield Mordorgan un simulacre, la prise de drogue semblerait être le seul vrai moyen pour les personnages de Dick de transcender leur réalité et de connaître quelque chose de plus grand et d'essentiel, comme l'extase divine, qui est par la suite perdue et regrettée. Ceux-ci peuvent, en prenant de la drogue, échapper à leur réalité immédiate et connaître des expériences plus vastes pour tendre à une éternité et une immortalité certaine. Et si le personnage dont il était question ici, Tony Amsterdam, n'atteint Dieu que de manière éphémère, d'autres personnages connaissent véritablement l'éternité à travers la prise de drogue dans ce roman-là. Pourtant, de ces expériences transcendantes se dégage tout de même un constat d'échec. Par exemple, lorsque Charles Freck, un des junkies du roman, décide de se suicider, il ingère une grande quantité de barbiturique avec une bonne bouteille de vin rouge. Malheureusement, on ne lui a pas refilé des barbituriques, mais des psychotropes. Alors, dans son hallucination, une grande créature monstrueuse apparaît à Freck, et celui-ci comprend ce qui lui attend. Je cite le roman. « You're going to read me my sins », Charles Freck said. The creature nodded and unsealed the scroll. Freck said, and it's going to take 100,000 years. And 100,000 years later, he was still lying there on his bed, listening to them read him his sins. 10,000 years later, he had reached sixth grade. Charles Freck thought, at least I got good wine. Si Charles Freck se console en se disant qu'au moins il a du bon vin, c'est que finalement, l'immortalité n'est pas la libération que tous attendaient. L'éternité, ce n'est pas la fin de la souffrance. C'est plutôt la souffrance qui se prolonge à l'infini. Je cite le roman à nouveau. Imagine being sentient, but not alive. Seeing and even knowing, but not alive. Just looking out. A person can die and still go on. That's what it means to die. To not be able to stop looking at whatever's in front of you. Some darn thing placed directly there, with nothing you can do about it, such as selecting anything or changing anything. L'immortalité ne serait donc pas un état enviable, mais une condamnation à un état passif et parfois un état de souffrance. Ainsi, la quête de transcendance des personnages de Dick est véritablement vouée à l'échec. La seule transcendance possible ne leur permet pas d'être libérés, mais plutôt seulement de prolonger la souffrance dans laquelle ils vivent déjà. Malgré le pessimisme d'une telle constatation, l'éternité pourrait tout de même être enviable pour certains personnages qui sont si fous et torturés qu'ils n'arrivent plus à envisager d'autres alternatives, comme Charles Freck pendant sa tentative de suicide, ou Bob Arctor, le protagoniste du roman, qui, à la fin du roman, est devenu complètement fou à cause de la prise de drogue. Ces personnages sont prêts à accepter avec résilience la possibilité de l'éternité, voyant même en elle quelque chose de rassurant. Bob Arctor dit, « How would you like to gaze at a can of beer throughout eternity? It might not be so bad after all. There'd be nothing to fear. » Donc pour Bob Arctor, pour qui une éternité de contemplation passive serait enviable à son état de folie présent, c'est ça. Pour Bob Arctor, ce serait préférable. Ainsi, malgré le misérabilisme des personnages accédant à une telle forme de transcendance, la drogue pourrait donc être vraiment l'instrument de dépassement de la réalité que recherchent inlassablement les personnages de Philip K. Dick. Pour conclure, les personnages de Dick sont à la recherche d'une transcendance qui leur permettrait d'échapper à la dégénérescence de leur corps et à la vacuité complète de leur existence. Si cette immortalité, ils n'arrivent à l'atteindre ni à travers la robotique, ni les altérations d'humeur, ni le culte spirituel, c'est à travers la prise de drogue que les personnages de Philip K. Dick arrivent à devenir immortels. Pourtant, cette immortalité n'est pas présentée comme enviable, étant plutôt associée à une persistance de la souffrance et à une captivité dans une réalité languissante et passive. C'est une perception infiniment pessimiste de la société qui découle des romans de Dick, où le monde, où le réel est trouble et où la libération se fait attendre en vain. Il ne reste que le simulacre et la résilience pour faire face au désespoir qui s'immisce dans toutes les strates de la vie. En ce sens, nous considérons les romans de Dick comme la quintessence de la dystopie. Ce sont des mondes comme les nôtres où le bonheur est inatteignable et où la véritable immortalité est uniquement celle du tourment qui accable les personnages. Merci.